Allez.
Donc on commence Bezrat Hashem, le Siman Memchet, chapitre 48. Donc, dans le chapitre 48, on parle toujours de la structure de la Tfila, des Brachot. Donc, dans l'ordre du Shulchan Aruch. Tout d'abord, on s'est levé le matin. Ensuite, on s'est lavé les mains. Ensuite, on s'est habillé. Donc, puisqu'on s'est habillé, on a mis les tzitzit. Ensuite, on a mis les tefilin. D'accord? Et ensuite, on a commencé à faire les brachot du matin.
C'est celui-là.
C'est lui-là.
Ah, désolé. Il y a deux sucres.
Ah, d'accord. Bon. Donc, ensuite, on a fait les brachot. Birkot Hashachar. Merci beaucoup. Charlie.
Là, avec deux comme ça, ça fait un. Hein. C'est des mini-cubes.
Vous voulez faire une joke avant?
Non, on va y aller. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו.
אמן.
אמן, אמן, אסיימו. מרסי. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tout d'abord, on a fait les brachot du matin. D'accord? On a fait les brachot du matin. Donc, on a étudié à ce moment les brachot du matin. Ensuite, dans les brachot du matin, on avait la birkat ha-Torah. D'accord? La bénédiction de la Torah. Donc, on a eu Baruch Hashem quelques cours dessus pour expliquer à quoi ça sert, dans quel cas il faut la faire, qu'est-ce qu'on fait si on a oublié, etc. Et maintenant, on va parler de Parashat Hatamid. Parashat Hatamid, c'est la paracha. Donc, il y a une paracha qui correspond au Korban Tamid. Alors, en Patar Yehu, je sais pas quelle page c'est. Quelle page c'est la paracha Tamid? Voilà, c'est là. Moi aussi, j'ai tombé la page qui Baruch Hashem. Alors, ici, là. Voilà, c'est ça. Dans la page 26, vous avez Vaidaber Hashem Moshe les morts, Tsav et Bnei Israël, Vamarta Alem, Mat Korbani, Lachmeli Ishaï. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler, d'accord? Vous savez, c'est écrit en petit à côté, Parashat Hatamid.
De tous les jours.
D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi la Parashat Hatamid? Parashat Hatamid, c'est une parasha qui correspond à un sacrifice qu'on faisait tous les jours. D'accord? Un le matin et un l'après-midi, qui correspond à la tfila de Shacharit et de Mincha. D'accord? qui sont donc des tfilotes, bien sûr, obligatoires. Arvit, à la base, c'était pas obligatoire, maintenant, c'est devenu obligatoire. D'accord. Donc, nous dit le Rama, Veomrim,
c'est pas obligatoire,
Arvit, à la base, à l'époque de la Gemara, non. Au début, c'était pas obligatoire. C'était facultatif. Parce que Arvit correspond au reste des sacrifices. On avait, tous les jours, on avait des restes des sacrifices, on brûlait la nuit. Mais à la base des sacrifices, c'était le matin et l'après-midi. Par rapport à ça qu'on fait aujourd'hui les tfilot. C'est écrit, la Gemara Brachot elle dit, tfilot keneged tmidim tiknum. Que les Chachamim ont instauré les tfilot, les prières, en remplacement du Korban Tamid. Donc c'est pour ça que c'est très important de dire la paracha du Korban Tamid. Je le dis souvent, d'accord, que même ceux qui sont pressés le matin et qui n'ont pas le temps de faire toutes les bakashot, il faut s'efforcer au minimum de faire les brachot. Brachot, donc les bénédictions. Voilà, le minimum. Voilà. Donc les brachot, jusqu'à la birkat Kohanim, hein. Donc page 1 à page 4, ça c'est le minimum. Ça, à la limite, même apprenez-les par cœur, faites-les dans la voiture.
Ça.
Pas grave, d'accord. Il faut le connaître par cœur, ça.
On peut mettre un CD qui dit à notre place.
Mais vous plaisantez, mais une fois j'ai pris la voiture de quelqu'un qui m'a accompagné en voiture.
Ouais.
Il avait une cassette qui tournait avec les brachot. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, parce que je les connais pas par cœur, alors je les apprends par cœur. Dans la voiture, tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, certainement que tu as déjà les connaître par cœur. Ouais. Faut les dire.
Azak ou Baruch.
Azak ou Baruch.
Je crois qu'il y a des prières qu'on peut écouter, et des prières qu'on doit
accomplir. Pour l'élévation.
C'est ça, hein. C'est personnel. On peut le dire. Des prières qu'on peut les écouter.
Voilà, donc je répète, vous êtes très pressés le matin. D'accord? Comme nous tous, bon. Le plus important, c'est les brachot du matin. Jusqu'à Birkat Kohanim. Donc page 1, dans le Patach Eliyahu, si je prends ce livre comme référence, page 1 à page 4. Ça, c'est très important. Les brachot, ce qu'on appelle les brachot du matin. Une fois que vous avez fait ça, bon, tout le reste est très important. On peut avoir le tikkun ratzot. Le tikkun ratzot, si vous êtes levé dans la nuit. Bon, mais bon, après, on va sauter un petit peu. La kedah, c'est aussi important. Mais moi, je parle des choses très importantes. D'accord? On est obligé de le faire. Ensuite, vous avez parashat hatamid.
D'accord.
Voilà. Page 26. Voilà, c'est facile.
C'est ça, on a fait un mikra?
Oui. On l'a fait aussi à Mincha, puisqu'il y avait deux sacrifices, un le matin et l'après-midi. Parashat Hatamid. Si possible, si vous avez le temps, avancez encore deux pages jusqu'à là. D'accord? Jusqu'ici, c'est pas mal. Si vous pouvez lire jusqu'ici, c'est pas mal. Mais en tout cas, le plus important... Comment? Non, ça se lit... Enfin, ça correspond à Anna Bechoar. D'accord.
Hop, il y a des chemins.
Vous voyez ici la Nabe Kohar, c'est une tfila qui est ramenée dans la Gemara. On appelle ça la tfila. On l'étudiera d'ailleurs. La tfila de Rabbi Nechunia ben Akana.
C'est le nom d'Hachem, ça.
Ah, c'est extraordinaire, les noms d'Hachem qui sont cachés dedans. On étudiera, on y arrivera, vous inquiétez pas.
72.
Et là, alors c'est écrit, d'accord, c'est écrit, on tient ça du Arizal. Pas tout le monde a l'habitude, moi j'ai pas l'habitude par exemple. Mais c'est écrit, on tient ça, il y a certains qui tiennent ça du Arizal, que le fait de lire graphiquement le Anna Bechoar sous la forme de Menorah, c'est une ségoula. Une ségoula pour beaucoup de choses, d'accord, c'est une ségoula pour la Parnassa, pour Irat Shamaï, pour la crainte de Dieu, pour beaucoup de choses. Donc vous voyez, graphiquement, on suit ici l'ordre de la Menorah. Il y en a qui le lisent pas comme ça, mais qui l'affichent chez eux.
Ouais.
D'accord, c'est aussi une ségoula. Ça veut dire de voir graphiquement. Et autour de ça, il y a un tas de noms qui sont des combinaisons qui correspondent, d'accord, à des noms différents de ce Anna Bechoar. Le Anna Bechoar en soi, il fait que la Menorah. Donc la Menorah, c'est-à-dire, voilà, on a j'ai ici les sept branches. D'accord, tout le monde arrive
le
à voir.
Pied,
les sept branches, d'accord, plus le pied, c'est tout. Tout le reste, c'est des noms, des combinaisons qui correspondent, d'accord, à certains mots. Mais bon, Bezrat Hashem, on y arrivera. On y arrivera, c'est un autre sujet. On y arrivera.
Jacques Ségoula,
c'est beaucoup.
Alors, Veombrim, donc je reprends maintenant le Mishnah Broura, donc on est 46. À la page Reshut Gimel.
Je crois pas si bien dire, Ségoula, c'est rien de Ségoula.
Veombrim, Parashat Hatamid.
Ségoula aussi, ouais.
Donc on a l'habitude de dire Parashat Hatamid. Parashat Hatamid, ça veut dire la Parashat du Korban Tamid. Alors, on n'a pas l'habitude de dire Mishnah Broura, d'habitude je vous le dis à l'oral, mais celui-là j'ai envie de le lire. Prenez ici, numéro Aleph, Hatamid. Il est un peu long, mais on va le lire parce que c'est important. Donc pourquoi on lit cette parashat Hatamid ? Il nous dit « Vehi bimkom akravat korban Hatamid ». Lorsqu'on va lire cette parasha, pour Akadosh Baruch Hu, c'est considéré comme si qu'on venait d'offrir le sacrifice du Tamid au Bet Hamikdash, le sacrifice journalier au Bet Hamikdash. C'est la même chose. Sheken, Kiblou Razal, puisque les Chachamim ont reçu, d'accord, dans la tradition. Chez Bizman, chez En Bet Hamikdash Kayam, que lorsque le Bet Hamikdash n'existera plus, donc comme aujourd'hui, et donc du coup on ne peut plus offrir des sacrifices. Mishosek Bahen ou Parashutéen, celui qui s'occupera du sacrifice, et comment on peut s'occuper du sacrifice? Il n'y a pas de Batamikdash. Ça veut dire qu'il va l'étudier, il va le lire. Maale ala vakatuf keilu ekrivum. La Torah le considère comme si qu'il avait offert ce sacrifice. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, en deux minutes, en une minute, on a l'occasion d'offrir un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, chose qu'à l'époque c'était qu'un Kohen préposé qui faisait pour tout le monde. Aujourd'hui, en deux minutes, on a la possibilité de le faire. Bon, qu'est-ce que j'ai dit, Yitzhara? Et ça, dit, bon, t'as pas le temps, t'es pressé, c'est pas grave, on fera un autre jour quand j'aurai le temps.
Ça. Pour les...
Ça, il te dit, bon, non, il te dit, on garde ça pour Shabbat, et Shabbat, il va se lever tard, etc., etc. Ça marche pas comme ça. C'est deux minutes, c'est très important, c'est dommage de passer à côté. C'est comme si qu'on avait offert un sacrifice. Ou l'écart, c'est pour ça. Yeshomrim Gamken, Seder Amaracham Itamze. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude de lire toute la suite. Parce que la parashat Hatamid. C'est page 26. Voilà, je reprends la page 26. Donc ça commence ici. Mais après, on a plusieurs parachats qui vont parler des kétorettes, qui vont parler de beaucoup de choses. Mais à quoi sert de les lire? C'est pas seulement pour raconter une histoire. C'est que toutes ces parachats-là, quand on va les lire, c'est considéré comme si qu'on l'a fait. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est considéré comme si qu'on l'a fait. Vous imaginez le srout que ça nous fait? Avec quel mérite on démarre la tfila? Venir Eli Pachout. Et il me semble évident, ça c'est le Mishnah Broura qui dit. Des Mish Yodea Sefer Mitzvah. D'accord. C'est Mishi Yodea Sefer, pardon, celui qui sait étudier. Mitzvah, Lilmot, Vagmara, Pirou, Shamemra, Azo. Que celui qui sait étudier, il faut qu'au moins une fois dans sa vie, si possible tous les jours, mais au moins une fois dans sa vie, il étudie, dans un livre, il étudie dans la Gemara, le sens de la Parashat Hatamid. Donc Bezrat Hashem, quand on y arrivera, à chaque fois, on expliquera, à chaque fois, on essaie d'expliquer ce que la Gemara dit autour de ça. Celui qui est capable de le faire doit étudier, parce que c'est très important. Quand on a amené un sacrifice, d'accord, tu peux amener un petit sacrifice, et tu peux amener un sacrifice que tu as préparé, et que tu t'es préparé. Ça n'a rien à voir. C'est la même chose. La parashat Hatamid, c'est très 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 important. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est traduit, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, Vechen, qu'êtes-vous, pardon? Oui. Vechen, pareil. Machanu omrim bechol yom inyane asiyat haktoret. Pareil. Quand on dit tous les jours, inyane asiyat haktoret, donc tous les jours, juste après la parasha du Tamid, on raconte les ketoret. On a pu Baruch Hashem ici étudier au Bet Rabat dans le cours du mercredi. D'accord? Alors ici, ils ont ponctué kedé, mais c'est, enfin, à mon avis, c'est une erreur, s'il faut dire kedai. Kedai, parce que le Mishnah Moura n'était pas ponctué à la base, hein. Kedai sheyavin mashu omer, d'accord? Il est bon, alors, de comprendre ce qu'on dit, ou basé techashevlo amira bemakom atara. Et là, quand on comprend ce qu'on dit, c'est là que le fait de le dire s'apparente au fait d'avoir sacrifié au Beth Amikdash. Ça veut dire que, certes, la Gemara Brachot nous dit que lire, c'est considéré comme si on avait offert le sacrifice, mais il faut un minimum de compréhension. Donc voilà pourquoi il y a des cours, voilà pourquoi il faut réviser les cours, et voilà pourquoi il faut réviser constamment la traduction. Parce que pour que ce soit comptabilisé auprès d'Akadosh Baruch comme un sacrifice, il faut qu'on comprenne au moins le sens général de ce qu'on est en train de dire. Si on lit et qu'on ne comprend pas la différence entre Parashat Tamid, Baruch Shamar, Ishtabar, Shema, et que pour nous c'est tout la même chose, il faut s'en débarrasser, c'est tout, on n'a rien gagné. Perdre notre temps. Donc, Kakav Vechen Katvu Asfarim, de la même manière, les livres ont écrit, de Mashamar Agmara, Kol Aosek et Parashat Ola Vechoulé, Akavana, Sheou, Mit Asek, Lavin, Inyanea, Loam Irat, Atevot, Bilvad. Voilà. Donc, ce que je viens d'expliquer, donc les Rachamim nous disent, d'accord, que le plus important, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de lire. Bon. Maintenant, Katav Amagan Avraham, pour nous montrer l'importance de cette Parashat Tamid qui est page 26. À la limite, j'aurais envie de dire que même si on n'a pas eu le temps de lire les Brachot pour X ou Y raison, il faudrait au moins la lire. Ça prend 30 secondes, combien de temps ça prend? C'est page 26, on y a un paragraphe, c'est rien. Alors écoutez, regardez l'importance de ce paragraphe. Nous dit le Mishnah Moura ici, que le Magan Avraham a écrit que Parashat HaKorbanot Yomar Bamida, à tel point, on prend ça au sérieux, que c'est comme si on offrait un sacrifice, que c'est une paracha que pour la lire, il faut s'efforcer de le faire debout. Pourquoi debout? Puisqu'un sacrifice se faisait debout. C'est-à-dire tellement on prend ça au sérieux que c'est comme si on faisait un sacrifice, qu'on te dit, avant de la lire, lève-toi. Comme ça, tu prends conscience que tu es en train d'offrir un sacrifice. C'est ce qu'il dit ici le Magan Avraham. Bon, alors après, il ramène d'autres avis qui ne sont pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il faut se lever? Ou est-ce que comme c'est seulement un zéher, un souvenir, on n'a pas besoin de se lever? Quoi qu'il en soit, c'est important pour moi de lire le Mishnah Moura pour vous montrer que cette paracha Tatamit est une paracha qui est très importante. Et que dans notre tête, c'est comme si on offrait un sacrifice. Et qu'auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est comptabilisé comme si on offrait un sacrifice. Donc c'est un mérite de plus pour pouvoir faire une bonne tefila. Je reprends le Shulchan Aruch en haut, dernière ligne. Veyesh omrim, seder amaracha, veribon haolamim, atat sivitanu. Bon. Alors. Donc, je reprends la structure du, je sais pas si tout le monde arrive à voir le, bon. De toute façon, on normalement, devrait le connaître. On a ici Parashat Tamid. Ça correspond au sacrifice qu'on faisait le matin et l'après-midi. D'accord? Après la Parashat Tamid, va démarrer, donc après on a l'introduction, on a Pitou Maketoret. Vous avez une légende ici à côté. Pitou ouais. Maketoret. Là, on parle des Ketoret.
Ça fait partie de ce qu'on reprend nous à la fin, la Parashat Tamid.
De
Parashat Tamid, ça fait pas partie des ketorot qu'on reprend nous.
Si,
il y a une petite partie qu'on reprend. Non, c'est pas la même chose. Il y a une petite partie, mais l'essentiel c'est là, c'est la Parashat Tamid.
Ça, ce n'est pas redit chez Chabad.
Dans le cas, ça ne le redit pas. Ah, ça,
c'est ketorot. Oui, non, il a raison, on le redit pas. Alors, donc on a la Parashat Tamid, ensuite on a le Pitou Maketoret, les ketorot qu'on a pu étudier, qui sont assez longues, donc dans lesquelles on ramène les versets qui parlent des ketorot, plus la Gemara qui en parle, donc on a pu l'étudier Baruch Hashem ici. Et après, ici, page 29, vous avez Seder Amaracha. Vous avez une légende ici dans laquelle c'est écrit Seder Amaracha. Ça commence par Abaye. Abaye, c'est un grand maître de la Gemara. Et donc là, c'est quoi cette phrase de Abaye Avame Seder? C'est une phrase qui vient de la Gemara Yoma, qu'on appelle Seder Amaracha. C'est, on nous raconte là-bas l'ordre, la procédure, comment ça se passait au Beth Amikdash. Ça veut dire, dans les versets d'avant et dans les gemarot d'avant, on nous parlait de chaque mitzvah séparément, comment elle se passait. Les ketoret, les sacrifices, etc. Après, Abaye nous racontait en détail, ça on l'a pas étudié encore, il nous racontait en détail comment se passaient les sacrifices, comment on offrait, qu'est-ce qui passait avant. Ça veut dire comment préparer le bois et qui devait le faire, etc. etc. Il y a plusieurs étapes, d'accord, il y a une vingtaine d'étapes ici qu'on peut compter. Et même dans les différents sacrifices, quand on a le choix entre différents sacrifices, lequel passe en premier? D'accord? Donc il y a tout un ordre ici. Damatamid, Kedem la Tavatram Shtenerod, Vatavashenerod, Kedem Electorat, il y a tout un ordre. Par exemple, on voit bien ici, que, on l'a pas encore étudié, mais on l'étudiera à Bedrat Hashem, que par exemple, on commençait à allumer la menorah, et juste après on devait aller faire un premier sacrifice, après on revenait pour terminer d'allumer la menorah. Et chaque chose a un sens. Tout s'explique. Tout s'explique. Alors, il y en a qui disent, nous dit le Rama ici, il y en a qui ont l'habitude de dire également cette Gemara qui nous parle de Seder Amaracha. Bah oui, puisque tu me dis que le fait de l'étudier, c'est comme si je le faisais. Donc le fait d'étudier l'ordre de ce qui se passait, ben quelque part, c'est comme si que j'y étais. Veribon olamim atat sivitanu. Voilà, et ça c'est une phrase très importante aussi.
Maître des mondes.
D'accord. Toutes les ketoret vont se conclure avec un ribon olamim. Et après, on passera déjà à Ezo Mekoman. Ezo Mekoman, c'est encore autre chose. Il y a un Ribon Olamim. Ribon Olamim, traduction, c'est quoi? C'est maître du monde. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce Ribon Olamim? C'est une supplication de conclusion. dans laquelle on va demander à Kadosh Baruch Hu, on va lui dire, maître du monde, toi tu nous as ordonné d'offrir le sacrifice au Beth Amikdash, toi tu nous as ordonné d'offrir les Ketoret, toi tu nous as ordonné de suivre un ordre qui est cité dans la Gemara, mais le problème c'est que nous, on voudrait bien le faire, mais qu'on peut pas le faire, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, on demande à Kadosh Baruch Hu, Yehi Ratzon, je t'en prie, face à Kadosh Baruch Hu, que les tfilettes qu'on vient de dire soient comptabilisées comme si on avait offert le sacrifice. En d'autres termes, on montre notre bonne volonté à Kadosh Baruch Hu, on dit, écoute, on a de bonne volonté, si on avait un Beth Amikdash à Jérusalem, on y serait.
Pour Shalim,
on serait parti. On aurait cotisé, on serait parti deux fois par an, trois fois, on serait parti. Mais il n'y a pas. Alors, quelque part, c'est pas de notre faute. Alors, on fait ce qu'on peut. Et ça, c'est ce ribbono olam. Vous voyez que c'est très important de lire au moins la parachat Tamid, parce que le Korban Tamid, c'était le sacrifice essentiel de la journée. Tout le monde était concerné. Les Ketoret, pas tout le monde était concerné. C'était le Kohen Gadol, ou le Kohen, s'il n'était pas disponible, qui le faisait. Il rentrait au Beth Amikdash, il le faisait, mais pas tout le monde était concerné. Le Korban Tamid, le sacrifice journalier, était, tout le monde était concerné. Pourquoi? Bien sûr qu'il y avait une seule personne qui l'offrait. Mais il y avait une caisse particulière pour ça. Il y avait une caisse particulière pour ça. Chaque année, dès qu'arrivait le premier Nissan, on ramassait de l'argent, et tout le monde devait payer le fameux demi-cycle, particulièrement pour cette caisse du Korban Tamid. Et pour vous montrer à quel point c'était important, il y avait une caisse particulière, que dès qu'arrivait le premier Nissan et qu'il nous restait de l'argent dans la caisse de l'année dernière, puisque naturellement, les sacrifices, ben, c'est des animaux, donc il y a des fois où ça vaut un peu plus, c'est comme la bourse, des fois où ça vaut plus, ça vaut un peu moins. Et ben, on avait l'obligation de prendre l'argent qui restait, d'acheter des sacrifices et de les brûler. Parce que c'était une caisse qui était dédiée que pour ça, dans laquelle tout le monde devait participer. Donc vous voyez que le Korban Tamid, c'est quelque chose que tout le monde était concerné par ça. C'est pas comme les Ketoret, que bon, il y avait une caisse du Beth Amikdash, c'était plus général, plus collectif. Ça, c'est une caisse que vraiment tout le monde était concerné. Et d'ailleurs, le Kohen, lorsqu'il amenait le Korban Tamid, il avait une kavana, il dit, je ne le fais pas pour moi, je représente toutes les personnes qui ont cotisé. Toutes les familles, chaque personne devait cotiser un demi-shekel. Donc voilà pourquoi c'est très important de s'efforcer de lire le matin la parasha de Tamid. À la limite, apprenez-la par cœur.
Le machatit shekel,
c'était pour ça. C'était pour ça.
Sacrifice quoi?
C'est que le premier paragraphe. Au moins ça. Efforcez-vous au moins page 26, parasha de Tamid. Ça prend 2 minutes, d'accord?
Au début. Mais après, c'est beaucoup plus rapide.
Ah, mais c'est même pas.
Sacrifice rajouté, ça s'appelait comment? C'était pour.
Non, alors après, c'est différents sacrifices. Ça, après, c'est le Ezeu Mekoman. Dans le Zoom commun, on va étudier différents sacrifices qu'on offrait à différentes occasions. Par exemple, si j'ai fauté, j'offrais un sacrifice. Quand je voulais remercier Dieu pour un miracle, je ferai un sacrifice. Mais ça, c'est déjà plus individuel.
L'argent qui restait, on achetait des sacrifices pour les brûler.
Oui.
Ça rime à rien, ça.
C'est pour montrer que c'est une caisse qui est dédiée que pour ça.
Il y avait la nouvelle, le nouveau
sacrifice qu'on brûlait, c'est nouveau.
C'est les sacrifices qu'on appelait de Hashlama. C'est comme un peu comme le Moussaf. C'était un bonus. Enfin, Dieu, voilà, il nous reste un peu, il y a un bonus. C'est ton équipe.
Tu les bêtes quand même.
Bien sûr, mais c'est un sacrifice.
C'est le but du sacrifice.
C'est oui, page 26, exactement. Non, c'est écrit Parachat Tamid, vous voyez ça? Le paragraphe principal.
Il n'y a pas une raison précise de le faire.
Ouais, comme ça. C'est une bête, on n'a pas le droit de faire.
Posez la question sur les sacrifices, en général.
Non, mais c'est sacrifice en plus, non, là, parce qu'il y a fait de l'argent.
Oui.
Le judaïsme que nous vivons est un judaïsme rabbinique qui n'a rien à voir avec le judaïsme du temple.
C'est clair.
Donc, il est spirituel.
Oui, c'est,
enfin, est-ce que aujourd'hui, ce que nous a demandé de faire Hillel et de faire ce judaïsme rabbinique, est-ce que c'est mieux ou moins bien?
C'est pas mieux ou moins bien. Non, non, attention.
Que ce qu'il y avait avant. C'est que, enfin, c'est... on connaît tous le fameux texte d'Isaïe sur les corbanotes.
Attendez.
De ces corbanotes,
le Beth Amikdash. Oui.
Et j'en ai marre de vos comportements.
Oui, parce que qu'est-ce qu'il reprochait? Non, mais qu'est-ce qu'il reprochait? Il reprochait le fait que les sacrifices n'étaient pas liés à une kavana. Kavana de la personne.
Non,
ah oui,
aujourd'hui
c'est rabbinique.
Que nous avons un judaïsme rabbinique qui n'est pas du tout le même que le judaïsme
de Moïse.
Bien sûr. Mais
oui, non, mais c'est pas seulement. Je vais expliquer ce qu'il veut dire. Par exemple, à l'époque, on rentre au Beth Amikdash, il y avait du sang partout. Ah, c'était pas.
Mais c'était une boucherie.
C'était une boucherie. À l'époque, une personne qui transgressait le Shabbat de manière préméditée, on le mettait à mort. C'est pas comme aujourd'hui qu'on fait.
Ouais, non, mais c'est pas à l'époque du Beth Amikdash.
Ah oui. Non, mais ça veut dire que ça reviendra. C'est ma chère qui va venir. On va reprendre le Beth Amikdash.
Quand le Beth Amikdash va revenir, on aura nous-mêmes changé, puisqu'on aura le droit de
mettre. Mais vous croyez quoi? On aura des sacrifices haute technologie, ce sera des animaux.
J'étais vraiment mis à mort.
Bien sûr. Mais attention, la personne devait être prévenue trois fois, et on devait s'assurer qu'il soit responsable. Enfin, c'est très compliqué, c'est pratiquement jamais arrivé.
C'est des choses qu'on reproche aujourd'hui à l'islam.
Mais c'est pas parce que... Attendez, c'est jamais arrivé. Parce que...
On
lapidait. Attention, dans quel cas? Il fallait prouver que c'était prémédité, que la personne était prévenue trois fois par des personnes convenables. D'accord, monsieur?
Monsieur? C'est pas le même type.
Le génie de Hillel, c'est de nous avoir fait franchir ce gap.
Non, le génie de... Non, excusez-moi. C'est ce qu'on vient de dire ici. C'est ce qu'on vient... On vient de le lire dans le Mishnah Berurah. Le génie des Chachamim, ça a été de penser, d'accord, au jour où il n'y aura plus tout ça, on ne pourra plus faire tout ça. Et qu'on on devra substituer tout ça. C'est aujourd'hui. Maintenant, honnêtement, on va avoir beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui le concept des sacrifices parce qu'on ne le vit pas.
C'est pas sûr.
D'accord.
Comment on pense, ce serait pas sûr.
Que quoi?
Qu'est-ce qui est pas sûr? Si demain il y a le troisième temps.
Il y aura le troisième temps avec le même
sacrifice. Non. C'est faux, excusez-moi.
J'ai entendu dire ça.
C'est archi faux. Excusez-moi de vous reprendre. Vous avez mal entendu.
Qu'est-ce qu'il a entendu?
C'est archi faux.
Je l'ai lu,
ça. En tout cas, pas.
C'est ce qu'il a dit.
Il y a un troisième.
D'ailleurs, dans le Ribbon Olamim que je viens de citer, d'accord? On demande de retour! On lui dit de ramener le Bétamidèche pour qu'on puisse faire des sacrifices. Alors quoi? On va faire des sacrifices technologiques?
Non, on demande.
Ouais, mais pour Jaguar maintenant, je peux aller faire la
Puisque plus personne va fauter. Puisque plus personne va fauter. Plus personne va fauter.
Bien sûr, bon. Le Tamid, c'est pas lié à la faute. Le tamid, c'est un sacrifice, c'est pas lié à la faute.
C'est pour expier des fautes, le tamid.
Mais bon, ben, Bezrat Hashem, puisque je vois que vous êtes intéressé par les sacrifices, on ne sait pas vraiment rester sur le sacrifice.
Comme disait Balagur, il va falloir faire des sacrifices.
Un jour, Bezrat Hashem, oui.
Aujourd'hui, c'est...
Alors, oui, non, mais la question qu'on se pose, c'est qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris le fond de la question, c'est qu'aujourd'hui, on a recherché la spiritualité derrière tout ça.
Ouais.
Et quelque part, on a quitté tout l'aspect spirituel. Ah oui, il n'y a plus le sang, etc.
C'est le retour du Canaan, quoi.
Bon, alors la question qu'on se pose, c'est quand ça va arriver le Beth Amikdash. Quelque part, on n'est pas intéressé dans ce cas-là par le Beth Amikdash.
Bah oui, on n'est pas intéressé.
Quelque part, on n'est pas intéressé. Tu me dis, bon, on va venir, il y aura des ententes, ça sera un peu chinois. On va sacrifier les animaux.
Ce qui me gêne, c'est que ça ressemble beaucoup aux agissements des sociétés païennes.
Bien sûr.
Qui sacrifient même des hommes.
Très bien.
Mamoni, il a dit, je leur donne ça.
Alors, un jour, Bezrat Hashem, on étudiera. Messieurs. Bon, aujourd'hui, c'est un cours de halakha, c'est pas le but aujourd'hui. Mais Bezrat Hashem, dans un des cours de la tefila, j'ai déjà prévu, c'est bon, c'est... D'accord? On étudiera, j'étudierai Bezrat Hashem avec vous, un texte de... on a toute la vie devant nous. Un jour, Bezrat Hashem, on étudiera un texte d'Edmour HaZaken, un très joli texte d'Edmour HaZaken, qu'on a fêté la Yulia la semaine dernière, dans lequel il explique, en long, d'accord, et en large, ce qui se passait dans le Beth Amikdash, il explique comment... Dans le Beth Amikdash, justement, il y avait les kétorettes, il y avait les sacrifices, et il explique comment le fait d'offrir l'animal, le végétal, etc. C'était une manière de compléter, d'accord, et de compléter le monde. Et ça veut dire que le minéral n'attend que ça. Bon, Bezrat Hashem, ça je peux pas vous expliquer sur un pied. C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'accord, c'est quoi le problème de la galoute? Comment il disait le Rabbi de Kotsk? Rabbi de Kotsk qui disait le plus grand piège de l'exil, c'est qu'on oublie qu'on en existe. C'est qu'aujourd'hui on s'est habitué dans notre petite galoute. On accomplit les choses spirituellement, c'est comme si qu'on avait fait. On dit bon, ça va, je suis bien comme ça. Ah, ne prends pas la tête, je suis bien. D'accord. C'est comme si, ça va, c'est comme si, ça va, c'est bon.
La pub de la vie.
Oui.
La pité des lampes.
Oui. Bien sûr. Il faut pas oublier que dans la Torah, la peine de mort, c'est une capara, c'est un pardon. C'est une personne que la seule manière de réparer sa faute, c'est sa mort. Oui, ça n'est jamais arrivé. Vous savez, en passant, monsieur, pour répondre à votre question, la Gemara dans le traité Makot, oui, la Gemara dans le traité Makot, elle nous dit qu'un Beth Din qui tuait une personne une fois tous les 70 ans était considéré sanguinaire.
Criminel.
Sanguinaire. Assoiffé de sang.
Alors les accidents de la route, c'est un génocide.
Imaginez ou pas? Sanguinaire. Ça veut dire on dit ceux-là, ils aiment le sang. Ça veut dire ça n'arrivait jamais. On s'arrangeait pour que ça n'arrive pas. Mais le concept existe. Bon, je reprends le chemin d'autre. C'est comme il y a pas longtemps, il y a quelques années, on a parlé, il y avait la peine de mort pour Saddam Hussein, il marchait mort. J'avais écouté un cours à l'époque, j'étais encore en Israël. Il y avait un raf qui se posait la question, il disait. Est-ce que c'est justifié ce qu'ils ont fait, la peine de mort? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé.
De l'avoir
pendu, etc. Bon, ça a été filmé, ça c'était pas bien. Ouais. C'est évident. D'accord, c'était filmé, ça c'est pas bien.
C'est un piratage d'ailleurs.
Ouais, piratage d'ailleurs, oui. Et alors ? Ça je ne sais pas, mais bon.
Un portable.
Ouais, mais bon, ça peut être fait exprès, hein, mais bon. Ça franchement, j'y crois pas trop que c'est du piratage, mais bon.
C'est pas des moyens techniques.
C'était quoi la question ?
Alors la question c'était, est-ce que dans la Torah, on accepte la peine de mort ? Pour un tyran comme Saddam Hussein, il marche chez moi. La réponse a priori est oui.
Oui, on l'a fait pour Eichmann.
Bien sûr, ça existe.
C'est les rabbiniques qui ont décidé.
Ça existe ? Il y a pas, on a pas, seulement, c'est pas comme d'autres civilisations qui utilisent ça à tirer l'arigot. Avec les enfants de Haman, vous avez entendu, oui. Bien sûr.
C'est évident qu'il les a fait pendre.
Ma question c'est aujourd'hui, est-ce que ça existe ? Oui, ça peut exister aujourd'hui, pourquoi pas ?
Mais c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. C'est vraiment dans un cas dans lequel la personne a fait ça de manière préméditée, qu'on a calculé, qu'on a réfléchi, et que comme le cas de Saddam Hussein, c'est évident.
De toute façon.
Alors, je reprends.
Goé bon, la dame qui.
C'est des grandes. On ouvre des grandes parenthèses en ce moment.
Zigouillé.
Allez. Bezrat Hashem, voilà, Bunéder, j'ai mon mémoire. On fera un cours si Dieu veut sur les corbanotes, d'accord. Et on essaiera d'expliquer justement tout cet aspect, l'aspect spirituel qui se cachait derrière les sacrifices physiques. Et on expliquera comment, quand le Beit HaMikdash reviendra, on continuera à le faire puisque c'est pour notre bien et pour le bien de l'humanité. Alors, Ve'im Yavchar Leomro. Allez, on tourne la page. Page Rachid Dalet. Ve'im Yavchar Leomro Betibour, Yachol Leomro Beveto, Velachazor Parashat Atamid Levat Imatibour. Alors, si maintenant on ne peut pas dire Im Yavchar Leomro Betibour, si on ne peut pas lire cette fameuse Parashat Atamid, page 26, Patachegaou Betibour, en public, je peux le dire à la maison. Velachazor Parashat Atamid Levat Imatibour, mais il faut s'efforcer de la recommencer, de la dire à la synagogue avec le Tibour. Parce que rappelez-vous, le Korban Tamid était un Korban communautaire très particulier, c'est un Korban qui était payé par les individus, d'accord, mais qui était fait de manière communautaire. Donc il est bon de le dire à la synagogue avec tout le monde.
Il ne faut pas le dire le matin à la maison, il faut le dire quand on est arrivé.
Voilà, c'est le mieux. Voilà pourquoi dans les synagogues, avant de dire le Hacheré, etc., ou bien même le matin, on lit la Parashat Atamid à voix haute. On lit à voix haute. Voilà pourquoi. La raison est là. Parce que c'est un sacrifice qui est individuel, mais qui a été fait de façon communautaire.
C'est la page Riyad.
Alors, attendez, voilà. Bon, veillez Chaven. Alors, Venagou, Medak Dekim. Allez, venez, on passe à la ligne suivante. Ah, ça c'est extraordinaire. Venagou, Medak Dekim. Alors, regardez bien, chaque mot est précis ici. On l'habitude, ceux qui font attention. C'est-à-dire qu'apparemment, on va parler de quelque chose que pas tout le monde fait. Leitnonea Beshaa Shekorim Batora. De bouger, de secouer leur corps lorsqu'ils lisent la Torah. Ça vous dit quelque chose, ça ? D'accord, cette démarche, là, on bouge comme ça. Alors, c'est écrit en Shulchan Aruch. C'est le Rama qui dit. Ils ont l'habitude de bouger lorsqu'ils lisent la Torah. Pourquoi ? Pourquoi tu bouges ? Hein, je dis souvent, lorsqu'on rentre dans une bibliothèque, vous voyez pas des gens en train d'étudier, en train de bouger. Au contraire, il n'y a rien qui bouge. Qui bouge.
Et ils chantent pas quand ils
disent. Pour une yeshiva, c'est... Il y a un boucan terrible. Alors comment ça, pourquoi ? Dougma ta Torah. Alors on a plusieurs réponses. On a la réponse, on va dire, ça c'est la réponse midrashique, et après on aura la réponse al-pikabala. La réponse midrashique, c'est une réponse qui vient du Avudram. Donc Dougma ta Torah, shemitna beretet. À l'image de la Torah, qui a été donnée, la Torah était donnée avec des effets spéciaux, avec un vacarme. On sait que lorsqu'on lit en détail la parasha Yitro qu'on va bientôt lire, Bezrat Hashem, on voit qu'il y a des effets spéciaux. Il y avait un boucan énorme, il y avait des tonnerres, les éclairs. Ça veut dire que c'était lié, d'accord ? C'était lié à une manifestation particulière d'Akadosh Baruch Hu. C'était pas dans le calme. Bon. Alors, à l'image de cette Torah qui a été donnée avec du bruit, nous aussi on essaye justement de faire vibrer notre corps. Comment on fait vibrer notre corps ? Ben, tout d'abord en bougeant. Le fait de bouger, ça me permet de faire vibrer mon corps. Vechen pareil, Bécha, Shemit Palelim. Ces gens ont l'habitude de bouger également lorsqu'ils prient. Alchem, pour se rappeler du verset, Kal Atzmotai Tomana, Hashem Ikamocha. Le verset qu'on lit dans le Nishmat Kolchai, moi c'est bien du Teilim, on dit Kal Atzmotai Tomana, tous mes os disent Hashem Mikamocha, Dieu qui est comme toi. C'est pourquoi tous mes os disent, il n'y a que la bouche qui parle. C'est vrai que tous les os qui sont en train de parler, mais il n'y a que la bouche qui parle. Donc de là, on a compris que quand on bouge,
tout mon corps,
d'accord, c'est tout le corps qui participe et qui essaye de parler avec Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi on voyait qu'on bouge quand on fait la tefila et quand on étudie la Torah. Ça, c'est la réponse du Midrash. Et puis Kabbalah, le Rabbi expliquait ça souvent, c'est expliquer que la Neshama est comparée à une bougie. Et de la même manière, voilà, on l'a étudié en Tania il n'y a pas longtemps. De la même manière qu'on voit qu'une flamme, même quand vous la voyez stationnaire, elle est toujours en train de bouger. Toujours. C'est impossible. Une flamme stationnaire, c'est impossible. Pourquoi elle bouge la flamme? Pourquoi elle bouge la flamme? Maïmonide explique. Maïmonide dit que la flamme, elle bouge parce que la flamme a constamment envie de retourner à sa source. D'accord? Maïmonide dit que la source du feu, c'est en dessous de la Lune. Bon, ça veut dire c'est de la même manière qu'il y a la traction terrestre, ben, le feu, sa traction, c'est vers le haut. Il a envie de partir. Et comme il a envie de partir vers sa source, même si on a réussi à l'attraper, à l'attirer avec un combustible, d'accord? Mais ça ne change pas qu'il a toujours envie de revenir à sa source. Donc c'est pour ça que la flamme bouge. Elle bouge constamment, elle veut retourner à sa source. Alors on explique en Kabbalah que de la même manière, pourquoi on bouge constamment quand on a envie d'étudier? Parce que quand on est dans la vie de tous les jours, quelque part on oublie qu'on a une neshama et que cette neshama était beaucoup mieux en haut. Mais quand on étudie, et quand on fait la tefila, c'est un moment dans lequel c'est le moment fort de la neshama, et la neshama se rappelle qu'en haut c'était mieux. Donc bien sûr qu'elle a un combustible, bien sûr qu'elle a un combustible qui la maintient. C'est quoi le combustible qui la maintient? Ben, c'est le corps. Le corps maintient la neshama, donc elle est là. Mais elle bouge, elle a envie de bouger. Pourquoi elle a envie de bouger? Parce qu'elle dit, j'ai envie de retourner chez Akadosh Baruch Hu, c'était beaucoup mieux en haut. Et c'est ça la raison profonde pour laquelle on a envie de bouger instinctivement. C'est instinctif. Quand on vit quelque chose, on a envie de bouger quand on étudie la Torah, quand on fait la tefila. Néanmoins, je voudrais revenir sur ce point-là, j'ai vu beaucoup de tzadikim, notamment le rabbi par exemple, qui, lorsqu'il faisait la Amida, pendant la tefila il bougeait, mais lorsqu'il faisait la Amida, il bouge pas. C'est assez extraordinaire. Alors j'ai lu une fois la raison de ça, c'est que, notamment il y a beaucoup de ces équipes, j'ai vu comme ça, tu les vois pendant toute la nuit là, ils bougent, je sais pas comment, et tout d'un coup dès qu'il y a l'amida, t'as l'impression qu'il est mort. C'est un signe de respect. Parce qu'ils s'imaginent tellement qu'ils sont devant un roi, que devant un roi tu te mets comme ça, et t'as un monsieur, mais vous, reste tranquille. D'accord, mais bon, ça c'est déjà un autre niveau. Ça veut dire que tellement il prend conscience du fait qu'il est devant un roi, que dans sa tête il dit, même si j'ai envie de bouger parce que ma neshama a envie de bouger, je me retiens.
Ça c'est bien le niveau. On doit se
rhabiller, bien sûr, s'arrange, bien sûr. D'accord. Mais la conclusion sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est ça. D'accord. C'est que si on bouge, c'est pas un signe d'excitation, au contraire. C'est parce que notre corps a envie de vibrer. Ce qu'on a dit ici, deux raisons on a dit. On a dit plusieurs raisons. On a dit tout d'abord la Torah a été donnée dans le bruit, il y a eu du bruit, ça veut dire que le monde entier, la Gemara là-bas elle raconte, a dit que le monde entier a vécu, en tout cas le minéral, le végétal, l'animal, tout le monde a vécu Matan Torah. C'est pas quelque chose simplement que bon, on a entendu, ça va, on a entendu, on réfléchira. C'est le monde entier qui a vécu ça. De la même manière, c'est pour ça que quand on étudie la Torah, on essaye de vivre la Torah avec tout son corps. C'est numéro 1. Numéro 2, on a expliqué ici, Kalat Sotayt Amarna. Le fait de bouger, quand on étudie la Torah, c'est une manière de faire participer tous les membres du corps. Il n'y a pas que la tête qui participe, il n'y a pas que la bouche qui participe, c'est tous les membres du corps. Ça c'est numéro 2. Et numéro 3, on a expliqué que pourquoi on bouge quand on étudie la Torah, c'est comme une flamme qui montre qu'elle a constamment envie de retourner à sa source. C'est que dans des moments comme ça, dans des moments forts comme l'étude de la Torah et comme la tefila, c'est des moments dans lesquels la neshama, dans notre subconscient, réalise que sa place n'est pas là en vérité. Sa place est en haut. Donc instinctivement elle bouge, elle dit je veux retourner chez Kadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi on bouge. Et bon, on a fait un long cours dans lequel Rabbi avait expliqué que justement, c'est la raison pour laquelle on secoue le loulav, etc. Mais bon, ça c'est déjà un autre sujet.
Les historiens, ils disent aussi,
quand même, c'est une manière de parler qui est tellement plus agréable à entendre que de raconter des histoires
de sacrifices. C'est-à-dire la manière de vibrer.
La manière de vibrer, la manière de parler de l'élévation de l'âme,
oui.
Quelque chose qui arrive à nos oreilles, à notre cœur, et qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. C'est difficile de se rapprocher de Dieu à travers...
Alors, j'ai dit qu'on ferait un cours sur ça, Bezrat Hashem. J'ai compris la question.
C'est très difficile.
Mais je vais vous dire quelque chose.
Imaginez qu'aujourd'hui, vous essayez par ce genre de méthode de faire ramener la majorité des gens à la religion.
J'ai compris.
Essayez d'imaginer qu'ici, il y ait un
abattoir. Mais j'ai compris la question. Bezrat Hashem, on fera un cours sur ça, sur les kétorets, sur les sacrifices, etc. Mais ce que je veux vous dire quand même, d'accord, je veux quand même dire un point. Regardez, on met les tefilines tous les jours, on a une mezouza. Pour nous, c'est évident, ça va de soi. Mais une personne qui analyse ça de l'extérieur, ça veut rien dire. Même si on veut lui expliquer que le concept des tefilines, que derrière les tefilines se cache la soumission à Kadosh Baruch Hu, la soumission du cœur, la soumission de l'esprit. Derrière la mezouza, ça symbolise la protection, mais concrètement, c'est du parchemin.
Il y a plein de gens qui sont morts.
C'est du parchemin. La majorité des mitzvot sont liées à des choses physiques. Alors bien sûr qu'on va trouver toujours un sens derrière, mais c'est lié à quelque chose de physique. Enfin, construire une soukha, c'est une cabane. Bon, c'est joli, c'est sympathique, mais Hanouka, la lumière, c'est extraordinaire, mais concrètement, on a allumé des bougies physiques.
Quand il y a eu l'élimination du cheptel entier en Angleterre, on a tué plus de 4 millions de vaches. Pour
la vache, Paul.
Pour,
mais ça dépend de la raison pour laquelle on l'a fait. J'ai compris, non, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut un cours sur ça. Mais une chose quand même, je peux vous dire, c'est que c'est pas la seule mitzvah qui est liée au matériel. Voilà, on met les tefillines.
Il y a des enfants qui ont gardé des veaux chez eux. Ils ont conservé des petits veaux.
Pour les garder, pour les protéger, ouais.
Et les gars de la SPA anglaise sont rentrés, ils disaient, mais il y avait 90 veaux, on en a tué 89, il en manque un. Et ils rentraient dans les chambres, ils rentraient dans les pièces, ils frappaient les gosses, trucs, etc., jusqu'à ce qu'ils trouvaient au fond d'une cave un petit veau. Et après, le petit veau, il finissait, il le tuait.
Si oui, mais je veux vous dire ce que l'Admara dans le traité Yomel dit. Oui, j'entends.
La comparaison finale qui a été faite.
Oui. Mais l'Admara Yomel nous dit la chose suivante.
On a appelé ça.
Non.
Un holocauste.
Un holocauste.
Mais oui, puisqu'il fallait qu'il n'en reste rien.
Un holocauste.
Aujourd'hui, est-ce qu'on utilise le mot holocauste pour dire le sacrifice?
Non, je vais rentrer dans le terme.
On appelle ça la Shoah. Le mot holocauste veut dire que l'on tue des animaux et des bêtes.
Ouais.
Mais, et donc,
oui, non, mais on appelle la Shoah le holocauste parce qu'on était tués comme des animaux. C'est pour ça qu'on appelle ça un holocauste.
Je sais bien, mais, ouais. Mais on ne dit plus holocauste.
Non, on dit Shoah aujourd'hui.
On dit la Shoah. Le mot holocauste, il a disparu. On le retrouve encore dans les vieux livres anciens qui traduisent mal.
Mais tout le monde...
Même les Goyim, lorsqu'ils disent en parlant de...
Le musée de la Shoah, hein, vous avez la Shoah, on parle, tout le monde connaît le mot Shoah.
Le mot Shoah.
Enfin, il y a une prof qui a été condamnée parce qu'elle a dit le mot Shoah.
Alors, attendez, je voulais vous dire une chose. Que, mais on fera un cours dessus.
C'est un vrai problème.
C'est que la Gemara...
Mais le vrai problème, comment notre judaïsme a évolué, du judaïsme...
Le vrai problème, c'est que je comprends aujourd'hui, quand on entend parler de sacrifices, on ne se sent pas concerné.
Le judaïsme,
ça nous intéresse pas.
Le judaïsme de Moïse, c'était un judaïsme du temple où on faisait des corbanotes. Et le judaïsme qu'on a aujourd'hui, c'est un judaïsme qui est...
Mais pourquoi c'est un problème?
Donc vous appelez ça rabbinique, mais il faut savoir qu'à l'époque du temple, d'accord, il y avait aussi les sacrifices, et c'était rabbinique.
Je dis que ça a changé.
Bah oui,
c'est clair, ça a changé, c'est clair.
Oui, non, mais on ne doute pas de ça.
À l'époque du temple...
Ah ben, c'est d'après ce que d'après les rabbiniques, leur va dire oui,
bien sûr. Mais pourquoi vous dites rabbinique d'abord? Pourquoi vous dites rabbinique?
Bah, c'est
les pharisiens.
C'est pas vraiment rabbinique parce que.
Il est allé à Kiba.
Parce qu'attendez, au Beit Hamikdash, à l'époque du deuxième Beit Hamikdash surtout, on avait déjà la Mishnah, on avait déjà des tas de choses, ça veut dire que c'était déjà rabbinique. C'était déjà rabbinique.
Oui.
D'ailleurs, il y a même des traités de Mishnah. J'ai étudié il n'y a pas longtemps un traité de Gemara qui s'appelle Zvachim. La Gemara, vous savez, dans la Gemara, il y a un des traités qui s'appelle Zvachim. Zvachim, c'est quoi Zvachim? C'est les sacrifices. Dédié au sacrifice. Les détails des sacrifices. Ça veut dire que c'est rabbinique, c'est clairement rabbinique, mais c'est pas actuel aujourd'hui. Alors, regardez, je vous dis juste un point, on finira avec ça, mais dans la chambre, on fera un cours dessus. Et la Gemara, elle raconte la chose suivante, elle raconte qu'une fois, les Chachamim ont voulu instaurer quelque chose, ils se sont rendus compte que c'était une coutume qui était prise chez les nations et que ça risquait d'être mal compris par les nations. Et donc, il y a eu un long dialogue parmi les Chachamim. Et la conclusion des Chachamim a été la suivante. Regardez bien, écoutez bien dans les mots, je vais le dire. Les Chachamim ont dit « Véhi yaved olamom ipina ashutim » Est-ce qu'on va détruire le monde de Dieu à cause des fous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des tordus qui comprennent mal et qui font mal, est-ce qu'à cause de ça, nous, on va arrêter de faire ce qu'on doit faire? Ça veut dire que aujourd'hui, quand on entend parler de sacrifice, tout de suite, on a en mémoire des cultures païennes qui reviennent et on a des dictatures qui reviennent en tête et on n'a pas envie d'y penser. Mais on est obligé d'y penser. Parce que certains ont mal compris, c'est pour ça que nous, on doit arrêter notre identité? Non, c'est pas bon. De ça, Bézrat Hachem, on aura un cours dans lequel on expliquera le fond des corbanotes. Vous verrez que c'est pas simplement des sacrifices physiques. Il y avait derrière un sens très important. Mais Bézrat Hachem, une fois, un ou même plusieurs cours de ça, sur ça, parce que c'est fondamental. C'est fondamental.
Moi, je connais des juifs je connais pas directement. Et je t'enregistre encore là parce que c'est pas des bons mots.